In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Un entretien où l'on parle davantage du cheminement vers une homosexualité épanouie et consciente avec Erwan, mon invité pour ce 80e épisode. Ce médecin de 27 ans raconte son parcours, teinté fortement par ses intenses études en médecine, ses amitiés indéboulonnables, ses amours douloureuses puis heureuses, et ses relations avec ses parents, d'où sa mère. Pendant de nombreuses années, Erwan va se faire croire à lui-même qu'il est capable de verrouiller ses émotions et sentiments, et ce jusqu'à vriller, comme il le dit, et commencer une thérapie libératrice. Une psychiatre, puis une psychologue qui vont lui permettre de prendre du temps pour lui, de se rencontrer, de laisser derrière lui des relations complexes et aliénantes, et de trouver enfin sa place dans sa famille, sa vie et sa profession. C'est un épisode émouvant où l'on parle d'amour, d'amitié, de quête de soi et d'abnégation. Prochainement docteur en infectiologie, Erwan partage sa vision de la médecine et de son ambition à être un médecin ouvert et bienveillant. Restez bien jusqu'à la fin, le futur docteur Erwan donne quelques conseils en santé sexuelle. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Erwan. Salut Erwan.
Salut.
Ça va?
Oui.
Erwan, tu es face à moi. Oui. Je sais que tu es un peu déçu parce que le canapé n'est pas rose.
C'est pas le canapé rose dont j'avais entendu parler.
Ouais, ouais, il est gris, souris. Mais on est bien, c'est cosy quand même cette
année. Il y a des petits coussins.
Ouais, avec des petits motifs. Erwan, tu connais le podcast, tu m'as dit en plus que tu l'écoutes depuis le début, donc rien que pour ça, j'ai envie... Franchement, merci. Je vais te poser la toute première question que tu connais. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
J'avais préparé un peu la question.
T'es médecin, tu bosses.
Oui, voilà, c'est ça. Bosseur. Je suis un peu contrôle fric dans tout ce que je vais faire et tout ce que je vais te dire. Mais j'avais préparé un peu la question. Mais en fait, à chaque épisode, c'est l'exercice que je fais et j'essaye de me rappeler le truc. Et du coup, à chaque fois, je remonte un peu plus vieux dans mes souvenirs. Et je pense, et en fait, ça va faire sens avec tout ce dont on va parler après. Mais je pense que mon tout premier souvenir, c'est le tout premier cours en CE2
d'éducation sexuelle.
Ouais, alors enfin, c'était un peu le cours de sciences et vie de la Terre.
Ah oui.
Où on m'a appris pour la première fois à comment se faisaient les bébés en fait.
D'accord, donc la procréation.
Voilà, c'est ça. Et je me rappelle très bien, j'étais dans le fond de la classe, il y avait une vidéo qui est passée, je me rappelle des couleurs de la vidéo. Vraiment, je me rappelle très très bien de
donc
ce moment.
Donc t'as 8 ans.
Ouais, 8 ans. Et en fait, je m'en souviens très bien parce que ça m'avait vraiment intéressé, parce que j'ai toujours été intéressé
par la bio,
les sciences et tout ça. Et en fait, je me souviens, moi j'étais fasciné par cette vidéo là qui était en train de passer, parce que j'ai découvert un truc incroyable.
Dont tu n'avais jamais entendu parler.
Non. Et il y avait un gars dans ma classe qui avait pouffé de rire pendant la vidéo, il s'arrêtait plus. Et en fait, pourquoi il rigole? On rigole pas en cours de maths, on rigole pas en cours d'histoire, pourquoi il rigole?
Ah oui, toi tu l'avais pris par le prisme vraiment.
Ah ouais, ouais, moi c'était intellectuel. Et du coup, le gars avait été sorti de la classe, mis dans le couloir, et moi j'étais content. Enfin, il y avait un petit sentiment de réjouissance quand il était sorti, et je m'étais dit, ah, on va pouvoir enfin se concentrer
sur le sujet.
Voilà, sur le sujet, et écouter le truc.
Ok. Donc voilà. Ça, c'est vraiment ton approche de la sexualité, elle est médicale, du coup.
Elle est médicale, elle est intellectuelle, scolaire, ouais.
On parlait de sexualité à la maison?
Pas du tout.
Pas du...
Non, pas du tout.
Ça arrive que des gens répondent oui, sachez-le, ouais. Mais c'est rare.
Non, pas du tout.
T'as 27 ans, donc tes parents sont d'une génération où on parle quand même un petit peu de sexualité.
Ouais. Alors, moi, je pense que j'ai toujours été très pudique, en fait. De toute ma vie, toute mon enfance, même aujourd'hui, je peux avoir des côtés très pudiques sur certaines choses dont j'ai pas envie de parler.
Tu posais pas de questions à la maison?
Non. Et en fait, je pense que dès très jeune, j'ai senti le malaise avec mon père. Enfin, ça lui arrivait de dire des choses très crues dans le versant hétéronormé, on va dire.
Des blagues?
Ouais, de faire des blagues, je sais pas, sur une vendeuse qu'il avait vue au moment d'acheter des fringues de sport et tout, alors que moi, j'étais content de mes nouvelles baskets. Des trucs comme ça. Et moi, tout de suite, depuis très jeune, j'ai été en malaise avec ça.
L'humour à la Bigard, un peu.
Ouais, exactement. Et moi, je vraiment, j'adhérais pas à ça. Si j'étais l'intello,
bon élève.
Ah ouais, bon élève, l'enfant facile, pas qui bougeait pas, qui rentrait chez lui. On n'avait pas besoin de lui dire d'aller se mettre au devoir et tout. Enfin, c'était vraiment. Donc, ce genre de choses là, ça me faisait pas rire. Et
donc, ça crée un décalage entre vous.
Il y en a toujours eu. Et puis, en fait, mon père a quitté la maison. Moi, j'avais 8 ans.
T'as pas de souvenir avant.
Ah non.
C'est intéressant.
Mais ouais, non, en fait, il est parti de la maison et j'avais 8 ans. Et en fait, moi, pendant des mois et peut-être des années même, c'est vague, hein, mais j'ai connu ma maman pleurer au fond du trou. Ouais, quelques mois d'écart, en fait, mon grand-père décédait.
Son papa, elle.
Enfin, on est une très petite famille. Du coup, il y avait très peu de figures masculines dans ma famille. Donc, j'avais justement ce grand-père-là dont j'étais très proche. Et en fait, quand tout a éclaté en même temps, en fait, c'est vrai que mon frère, il a quoi, 4 ans de plus que moi. Donc, il était en phase de pré-ado, lui, quand mon père a quitté la maison. Et donc lui, ça a été la...
Ouais,
ça a
été la... grosse rébellion.
Ah ouais, grosse rébellion, enfant, ouais. Adolescence très turbulente.
Donc toi, tu te sentais obligé d'être encore un... plus scolaire, plus sage, plus calme.
Voilà, c'est ça. Je pouvais pas me permettre d'être
aussi
d'être. Non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai. Mais ça, je l'ai compris bien après. J'ai très vite endossé le rôle de, on va dire, de l'homme de la famille. Enfin, je sais pas
du
si
responsable,
c'est.
Responsable, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Où en fait, j'étais là, je consolais ma mère. J'étais un peu avec ce que tu peux faire, ce que tu peux donner à un enfant de 11 ans, un peu plus sage. J'étais, facile à vivre, etc. Et je pense que, ouais, je me suis vite mis dans cette posture-là. Et pour moi, il n'y avait pas de question de sexualité à la maison, quoi. Je pouvais pas en discuter, c'était pas le sujet.
Ouais, et puis surtout, je pense qu'elle devait pas être tellement disposée à faire cet accompagnement-là avec tout ce qu'elle devait gérer elle aussi.
Non, puis je pense que ma maman est pudique aussi, que c'est des sujets qu'on n'abordait pas. Mon frère, il y avait quand même un décalage de pas de génération, mais
oui.
Voilà, moi j'étais encore enfant, il était pré-ado, il était ado-pubère quand j'étais en train de rentrer en pré-ado. Enfin, il y a toujours eu un petit décalage qui fait que je...
Oui, vous n'avez pas réussi à trouver un...
Non, non. Et lui, il avait sa bande de copains, il faisait que des conneries. Et moi, je traînais beaucoup avec les filles. J'avais quelques potes garçons, mais voilà.
Très scolaire.
Voilà, très scolaire. Dans la cour de récré, là où les garçons faisaient le foot, on s'inventait des histoires, on jouait à tu sais, le loup-garou, les machins, les trucs comme ça. Enfin, moi, je préférais largement faire ces trucs-là que d'aller jouer au foot, surtout que j'étais basketteur, moi. Là. Donc, quand il y avait un ballon de basket dans la cour, j'y allais, mais sinon, c'est tout, quoi.
Donc, tu passes, du coup, avec, dans le plus grand des calmes, ta prépuberté, ta puberté. Tu fais pas trop de vagues à la maison ?
Non, pas trop. En fait, je rentre, je reviens au basketball. J'ai fait du basket donc, toute mon enfance. Et je rentre au collège, je continue le basket. Et vient le moment, en fait, du début de la puberté.
Bien sûr.
Où je décide d'arrêter le basket parce que je voulais plus me montrer dans les douches, en fait.
Par pudeur ?
Ouais, par pudeur. Je voulais pas aller dans les douches. Et en fait, j'ai inventé des fausses excuses à mes parents parce que mon père me coachait, en fait.
C'est la complicité dont tu parlais ?
Ouais. Ouais, alors elle est venue un peu plus tard, je pense, la complicité. Mais c'est vrai que les années basket que j'ai vécues avec lui, c'était très sympa. Et en fait, moi, je me sentais dans une sécurité affective avec lui.
Et pour, donc, cette pudeur physique ?
Ouais.
C'était quoi ? C'est parce que t'as vu des garçons se moquer d'autres garçons ? Il y a eu une action qui t'a...
Je sais pas, je pense que c'est la difficulté d'accepter le corps qui change, je pense. Ouais. Où je me disais, en fait, j'ai envie que ça se passe dans mon intimité. À moi tout seul.
D'accord.
Et j'ai pas envie de partager cette évolution de mon corps avec les autres.
Donc c'était un regard intérieur et pas un regard de comparaison ou de...
Non, jamais.
D'accord.
Ouais, non. Je me suis jamais comparé. J'étais pas à me dire lui, machin. Enfin, j'ai jamais été dans le jugement vis-à-vis parce que la puberté, ça vient pas au même moment chez
bien
tout
sûr.
Le monde. Du coup, ça crée comme tu dis,
bien
des
sûr.
Moqueries, des décalages.
Bien sûr.
Bon, non, moi j'étais pas là-dedans.
Au-delà de la taille du pénis, ça peut être aussi la musculature, ça peut être les poils. T'as les garçons qui sont très poilus, des garçons pas poilus.
Mais moi, c'était surtout les poils, je pense.
Ah ouais, tu vois, chacun a son truc. Ouais. Hein. Parce que oui, d'accord, ok. Tu voulais vivre ça avec toi-même. Mm. Donc, t'arrêtes le basket.
J'arrête le basket et j'arrête le basket pendant 3 ans.
Le temps que les choses se.
Ouais, le temps que les choses se tassent et que, voilà, et que je rentre au lycée et que tout le monde soit au même niveau de puberté.
À peu près,
voilà.
Je comprends. Donc, du coup, tu passes cette puberté. Comment ça se passe, ce corps qui change? Il y a quelque chose qui te revient à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a eu peut-être des premiers émois? Il y a quelque chose qui se passe? Alors... Ou tu intègres, actualises et.
Quand je suis arrivé en 6e au collège, parce que c'est là que. Parce que moi j'avais. C'est comme ça qu'on l'appelle. J'avais une amoureuse à l'école que j'ai eue, franchement, de la grande section à la CM2, quoi. Au CM2.
Une fidélité à toutes épreuves.
Et ouais, ouais, ouais. Et en fait, j'avais fait un énorme cérémonial en disant, mais écoute, je te quitte, je pense qu'on va pas faire notre vie ensemble et tout en CM2, genre.
Trop mignon.
Ouais.
C'est beaucoup trop
bien. Et puis après, je rentre au collège. Enfin, il y avait beaucoup de filles qui s'intéressaient à moi.
Ouais.
Là, c'est la période de flirt où on avait MSN, on s'envoyait des petits trucs un peu, un peu chauds sur MSN. Moi, j'aimais bien, tu vois, c'était la petite période sympa. Et puis pareil, après, j'ai des demandes et là, j'y réponds plus.
Ok, tu bloques tout.
Je bloque tout.
C'est le moment où tu rentres aussi dans cette puberté qui
Je rentre en quatrième, là, ouais. Donc, tu vois, j'étais quand même plus pubère, là, parce que j'ai eu ma puberté plutôt jeune.
Ok. Plus enfin, vers sixième, cinquième.
Fin de sixième, ouais.
Ah oui, c'est tôt.
Ouais. Ouais, donc je l'ai assez tôt. Et puis, tu vois, après, voilà, je... Donc, je continue mon parcours scolaire, premier de classe, je m'inscris au club de sciences le midi, enfin, voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait, tu vois, c'était pas, en quatrième, c'est l'année où j'ai rencontré une de mes meilleures amies avec qui je partage encore beaucoup de choses aujourd'hui, qu'elle a eu. Et tu vois, c'est vrai que depuis la sixième, j'avais beaucoup de demandes, etc. Mais elle, il y a toujours eu une espèce d'amitié vraiment implacable.
D'accord.
Et où en fait.
Pas d'ambiguïté dans votre relation.
Bah non, jamais de mon côté. Bon, après, voilà, je pense que je commençais à rentrer dans des questionnements, moi, petit à petit.
C'est une de mes meilleures amies,
enfin, franchement. Et cette rencontre, vraiment, a posteriori, je me rends compte qu'elle m'a bouleversé, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est une des personnes que j'ai le plus envie de remercier aujourd'hui sur mon parcours. Ouais, sur mon parcours d'adolescence. Heureusement qu'elle a été là, quoi. Tu te doutes bien, pour moi, les garçons, ils étaient tous immatures. Les filles, elles ne m'intéressaient pas parce qu'elles étaient toujours un peu en groupe. Enfin, voilà, c'était... Donc voilà, j'avais pas beaucoup... j'avais un tout petit cercle amical au collège, mais ça me suffisait largement. Okay. Et...
Donc tu passes cette période-là.
Ouais.
T'arrives au lycée.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe au lycée?
Toujours pas d'histoire. Je disais non à tout. Et en fait, donc, ce que je t'ai pas dit, c'est que depuis la cinquième, plutôt cinquième, quand j'ai commencé à devenir pubère, je vivais un peu des moqueries dans la cour.
Par rapport à quoi?
Par rapport au fait que je puisse être un peu efféminé, que je traîne avec beaucoup de filles. Voilà, donc ça, je le vis vraiment comme une insulte, mais profonde.
Ok.
Enfin, tu vois, on passait à côté de moi, on se moquait de moi, on me faisait des petits signes comme ça de la main.
D'accord.
C'est arrivé qu'on me dise que j'étais une tapette ou des trucs comme ça, et en fait, moi, c'est des trucs que je comprenais pas. En fait,
tu savais ce que ça voulait dire?
Bah, au départ, non. Hein.
Ouais.
Non, moi j'ai appris ce que ça voulait dire à travers les insultes des autres. Hein,
Ah ouais, effectivement, l'éducation elle est violente sur ce sujet.
Ouais, je me rappelle l'avoir tapé sur Google, hein, définition. Hein. Mais c'est des choses que je vivais vraiment super mal.
Tu savais ce que c'était que l'homosexualité à ce moment-là?
Bah, non, je crois pas.
Okay.
Je crois pas. J'avais pas de référence
autour de toi.
Autour de moi.
En télé, t'avais vu? Non, ça te. Okay.
Ok. Bah non. Non, parce que les séries que je regardais, c'était à l'époque.
Oui, américaine. Donc ouais, voilà, c'est complètement aseptisé par
rapport
à ça. Voilà,
à l'époque, il n'y avait pas de ça. On n'en parlait pas.
Les ados n'ont pas de boutons.
Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'était pas possible que ça m'arrive à moi, tu vois.
Ça t'arrive.
Ouais. Dis ça comme je ça. Me disais ça comme ça.
Ok.
Ouais.
C'était pas possible. Donc c'était les autres qui étaient dans un jugement qui était complètement.
Voilà.
Enfin, de la moquerie et c'était bas. Mmh. Et ok. Donc tu passes, t'arrives au lycée.
J'arrive au lycée.
Mais les hormones, là, elles commencent un peu à.
Ah non.
Pas du
ah
tout.
Non non. Okay. Ah non, vraiment. Je quand je te dis que j'intellectualise tout. Donc j'ai retenté ma chance avec une fille en seconde.
Okay.
Avec qui il y avait eu des prémices, voilà. Et elle, pareil que la première, je sentais que j'avais que je pouvais avoir des sentiments. Mm-hmm. Et en fait, moi, ça me convenait bien parce que je me disais, ah, c'est une des filles popues. Si je sors avec elle, ça va me donner un peu de crédit, quoi.
C'est ça. Et on va arrêter.
Et on va arrêter de me saouler avec ces histoires de tapettes et de machin. Parce que ça a continué au lycée après. Quand j'arrivais à la maison, hop, j'occultais tout. Et quand j'étais au lycée, je me sentais pas bien. J'étais bien que en cours. Et quand venait l'heure de la récré, ben voilà, j'allais traîner avec. Parce que là, pour le coup, je m'étais fait un plus grand réseau social. J'avais trouvé une bande de potes avec qui vraiment je m'entendais trop bien.
T'avais eu cette fille. Il y a eu cette fille avec qui t'es sortie.
Non, du coup, non. Donc, on a flirté et puis finalement, au dernier moment, elle m'a repoussé. En fait, c'était pas. Tu vois, je sais pas. Il y a eu un truc. Je me demande justement s'il n'y a pas plusieurs filles. En vrai, Erwan, il est gay, machin. Enfin, tu vois, tout le monde était au courant avant moi. Hein. Tout le monde le savait. Ouais. Et moi, sur le coup, et plus ça, plus je recevais des insultes
ça fait beaucoup,
au lycée. Ce jour-là, j'ai dit, Erwan, c'est anesthésie affective.
Ah oui.
Terminé. Tu verrouilles tout. Mais je te dis, hein, la puissance du psyché. Pendant mon adolescence, mais aujourd'hui je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre des années comme ça?
Surtout qu'à ce moment-là, c'est toi le médecin dans cette scène, hein,
ouais.
C'est que les hormones à ce moment-là, c'est quand même des grosses vagues et t'as quand même des besoins aussi de, tu vois, d'être en connexion avec ton corps, les premières sensualités, etc. Mmh. Toi, t'as tout anesthésié sentimentalement, mais aussi physiquement.
Physiquement, j'investissais tout dans la sexualité seule, quoi. Enfin,
ah non,
dans la masturbation.
Tu t'es quand même
ouais.
Penché un peu plus sur le sujet. T'as commencé aussi à être dans un rapport avec ton corps qui a commencé à exister.
Ah oui, complètement.
Ça, d'accord.
Ah oui, mais ça existe depuis ma puberté, si
depuis
tu veux.
Le collège.
Mais en fait, voilà, c'était vraiment compartimenté. Voilà, il y avait le corps, le désir physique, le plaisir, et il y avait.
Ça, tu sais gérer.
Gérer.
Et comment la masturbation, ça arrive à toi? C'est-à-dire, c'est instinctif ou t'en parles avec des copains ou...
Non, très instinctif. Bah, tu sais, les premières érections réflexes,
bien
en fait,
sûr.
Parce que les hommes, on a les érections réflexes la nuit. Première érection réflexe, et puis finalement.
Tu comprends qu'en touchant, ça fait du bien.
Voilà,
et
exactement.
Mesure,
exactement. Et puis
donc,
voilà. Après,
donc, toute ton intuition, mais par contre, le cœur et ce qui se passe, ça, c'est décorrélé.
C'est ça. Okay. Mais c'est marrant parce que tu parles d'intuition, parce que je pense que j'ai ce côté très intuitif,
mais
très instinctif. Et de l'autre côté, j'ai
très
ce côté
cérébral.
Très cérébral.
Oui, c'est intéressant.
J'ai un jour. Et donc c'est là où je vais revenir au domaine du médical, c'est que je consultais mon médecin traitant pour un truc à la con, je sais plus, un certificat de sport. Et là, tu vois, j'aurais aimé que quelqu'un me porte secours, tu vois. Et j'attendais en fait que ça vienne soit du corps enseignant, soit du corps médical. J'attendais pas que ça vienne de ma famille,
Que ça viendrait pas de la famille, tu savais que ça viendrait pas
c'est
de l'école.
C'est ça. Et moi, j'attendais que ça vienne du corps médical et j'attendais que ça vienne du corps enseignant.
Comment t'aurais aimé que le médecin le voie et te...
Eh bien, aujourd'hui, avec mon expérience de médecin, je pense que ça doit faire partie intégrante des consultations de médecine générale chez les adolescents.
Tu me disais qu'en parallèle, tu faisais aussi un DU de thérapeute, etc.
Oui.
C'est important pour toi qu'il y ait aussi ce rapport pas que, je veux dire, fonctionnel, mais aussi un enveloppement.
Ah bien sûr, mais sinon on n'arrive à rien faire. Et ça, il y en a qui ne l'ont pas du tout compris. Et ils sont...
Donc, tu aurais aimé que ce médecin te dise « Ok, certificat médical, mais toi, sinon, ça va comment au collège ou au lycée ?»
C'est ça, qu'on m'interroge. Après, c'est de plus en plus intégré dans les formations maintenant,
ouais.
Mais qu'on m'interroge en fait là-dessus. Je pense que c'est quand même essentiel...
D'ouvrir la porte, quoi.
D'ouvrir la porte avec un adolescent de 15 ans, quoi.
Bien sûr.
Enfin, de dire, voilà... Est-ce que tu te sens bien au lycée? Est-ce qu'il y a des soucis, machin? Surtout que ce médecin traitant, moi, je l'avais consulté pour des problèmes fonctionnels, c'est-à-dire des troubles d'origine psychologique, en fait.
Ah, d'accord.
J'étais persuadé que j'avais un cancer. J'ai perdu 2 points sur ma moyenne générale. J'avais été convoqué par les profs et tout. Donc là encore, tu vois, là encore, je me suis
Pourquoi t'as pensé que t'avais un cancer
Parce que ma maman, elle avait une amie qui était décédée d'un cancer très jeune. Et donc, du coup, j'ai fait un espèce de parallèle. J'avais des douleurs dans le bas du dos. Et donc, du coup, j'étais sûr que j'avais un cancer qui évoluait localement à ce niveau-là. Okay. Ou alors qu'il y avait une métastase. Enfin. Et j'ai consulté le médecin traitant 3 fois quand même.
Un peu d'hypochondrie avec le stress. Ben,
non, c'est vraiment pas de l'hypochondrie. On appelle ça les troubles somatomorphes. C'est
n'oublions pas qu'il est médecin, évidemment. Ouais.
Donc troubles somatomorphes, c'est-à-dire vraiment une
tu t'appropries.
C'est pas une réelle atteinte organique, mais toi tu ressens la douleur vraiment. C'est
comme le membre fantôme des gens amputés, quoi. Tu ressens la douleur.
Bah c'est pas pareil, tout à fait. C'est d'accord. Par exemple, je sais pas. Le signe du côlon irritable, ouais. Par exemple. Donc ça, tu vas avoir des gens qui vont avoir des douleurs abdominales chroniques. On leur fait scanner sur scanner, on trouve jamais rien. Ouais. En fait, c'est des patients qui ont des terrains très anxieux et en fait, on est persuadé que c'est fonctionnel parce que toutes les explorations, elles ont montré qu'il y avait rien et finalement, on en arrive à. Mais en fait, on n'aime pas dire fonctionnel aux gens parce que ça délégitime un peu
la vraie douleur.
La vraie douleur.
Ouais, je comprends.
Puisque finalement, la douleur, elle est ce que le patient dit qu'elle est. En fait, on n'a pas apporté de jugement sur la douleur des gens.
Selon les gens, en plus, il y a des curseurs.
C'est ça. Et dans la douleur chronique, il y a une composante psychique énorme. C'est-à-dire qu'en fait, la douleur entraîne la dépression,
qui
entraîne la douleur. Enfin, et c'est un cercle vicieux. Et donc, moi, j'étais là-dedans. Je l'ai consulté quand même 3 fois.
D'accord. Donc, je comprends encore plus l'interrogation. Ouais.
Et je me suis dit, mais. Enfin là, je me le dis aujourd'hui, mais je me suis dit, et ne jamais avoir, comme tu dis, poussé la porte, je trouve que c'était... Enfin aujourd'hui, je le regrette un peu.
Moi, je comprends, parce que ça t'aurait effectivement peut-être permis d'avoir un adulte de confiance avec lequel parler, ou peut-être il t'aurait lui-même dit, bon bah peut-être qu'il faut consulter, ou enfin peu importe, mais t'aurais peut-être une écoute attentive à ce moment-là, et ça t'aurait sûrement fait du bien. Mais du coup, t'as quand même, donc voilà, tu traverses quand même des épisodes anxieux lourds de ce que tu dis, ce qui se passe à la maison, entre c'est l'addition de tout, quoi, c'est multifactoriel. Mm. Les potes, entre guillemets, les camarades qui se moquent de toi sur pas mal de sujets, notamment une homosexualité présumée à ce moment-là.
Oui, c'était tous les jours. Ouais.
Tous les jours, même si c'est un peu pas grand-chose et que c'est des blagues, ça reste du harcèlement. Donc clairement, ça rentre dans ce scope-là.
Ouais.
Plus effectivement, ces craintes de ce qui se passe autour de toi, donc ces troubles que tu as, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Donc tu termines le lycée.
La dernière année
de terminale. Tu sais que tu vas être médecin à ce moment-là.
Alors je me suis décidé quand je suis rentré en première scientifique, c'est-à-dire d'un coup, je m'étais renseigné sur le sujet et j'avais décidé que ce serait
médecin.
Ça. Voilà. Mais c'est fou quand même cette espèce d'ambivalence entre le cérébral et l'intuitif, parce que tu vois, pour le coup, j'ai toujours été très intuitif sur le scolaire professionnel. Mm-hmm. Très cérébral sur le côté affectif.
Généralement, on essaie de switcher. Hein.
Et alors,
je veux pas
je t'en parlerai après, mais quand je suis donc pendant mes études de médecine, quand je suis allé voir une thérapeute, et la tendance, elle s'est inversée.
Ah, c'est génial. Les bienfaits de la thérapie.
Mais ça, on va en reparler parce que.
Donc, tu es en terminale, c'est l'année du bac, c'est pas très compliqué pour toi. Tu vises la mention, évidemment.
Ouais. Donc.
Je dis ça avec un peu de dédain parce que moi-même, j'ai beaucoup galéré. Donc.
C'est vrai. J'ai passé un bac européen.
Ouais.
En filière scientifique.
Donc, c'est de l'anglais renforcé pour ceux
c'est
qui
ça.
Connaissent pas.
Donc, j'avais l'option européenne. Et j'avais pris une option art dramatique.
Ok.
Parce que je faisais du théâtre déjà depuis 7 ans. Et du coup, j'étais dans la petite troupe de mon village. Et après, et en fait, quand je suis rentré en option théâtre, je suis rentré au conservatoire. Quand j'arrivais le vendredi soir pour mes 4 heures de théâtre après la semaine de l'enfer au lycée.
Soulagement total.
Mais en fait, soulagement.
Bien sûr.
Et mon année terminale, en fait, il y a un nouveau qui était arrivé dans les cours. Mmh. Et lui était en première, il avait 1 an de moins que moi, et il était quasiment ouvertement gay, alors je sais, voilà. Mais lui,
assumé.
Plus ou moins. Okay. Ça dépendait avec qui, mais nous, il s'est assumé petit à petit.
Okay.
Et je pense que c'est la première fois où j'ai vu quelqu'un et j'ai dit, oh, mais en fait, il y a des gens pour qui c'est possible, quoi.
Et c'est cool, et ils sont cool et ils font les mêmes choses que moi.
Ouais. Et pourtant, lui, il avait été victime de rumeurs, mais vraiment glauques de la part de gens au lycée. Enfin, il vivait la même chose. Donc, mais je le trouvais fort par rapport à moi qui avait tout éteint.
Tu te posais plus de questions là, c'était éteint ou il y avait quand même en fond, si, maintenant avec le recul, ta maturité, il y avait quand même déjà un process de prise en, de considération.
Aucune.
Donc, tu vas passer ce bac.
Je passe le bac.
Ne nous déçois pas. Mention très bien.
Mention très bien.
J'ai deux minutes, j'étais
pas mention très bien, mention européenne. C'est marqué sur le diplôme, donc j'étais content. Mes parents étaient fiers. Voilà.
Superbe.
Et je rentre en première année de médecine.
Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la rumeur dit, c'est que c'est l'horreur, la première année de médecine?
C'était dur, mais j'étais dans ma bulle de sécurité.
Tu bossais tout le temps.
Ouais, je bossais tout le temps.
Non-stop.
Et en fait, j'avais pas à rendre compte à qui que ce soit. J'étais dans mon appart, tout seul. Bon, je faisais les allers-retours à la prépa, parce que j'avais pris une prépa. Et la seule difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai eu un accident de voiture en plein milieu de l'année.
Merde.
À la fin des partiels du premier semestre.
Ah oui.
Et j'ai fait un petit post-trauma après ça. J'ai eu du mal à m'y remettre, mais finalement, j'ai quand même validé l'année à la fin.
Donc, t'as validé ta première année.
Ouais. J'ai pas d'autre choix que de réussir. En même temps, en fait, je dois faire partie des un tiers de primants.
Alors, il y a ce qu'on veut.
Ouais.
Mais il y a ce qu'on peut faire.
Ah ouais, mais là, moi, c'était pas... Je pense que si j'avais pas validé mon année de médecine, j'aurais vrillé à ce moment-là.
Ok, ah ouais,
j'ai vrillé plus tard, mais j'aurais vrillé à ce moment-là.
Ok, je suis admirative de cette volonté qui te fait réussir.
Ah oui, mais moi, il n'y avait pas de question, en fait. C'était... Ouais, j'étais sympa. Bon, voilà, ma mère, je l'aime d'amour, donc c'est... Voilà, ma mère, c'était mon réconfort
bien sûr.
Pendant cette année-là, mais j'étais odieux avec tout le monde.
Bien sûr.
Voilà,
c'était... T'as vu personne?
Alors, donc au départ, je partais avec une petite bande de potes de lycée. Et puis, ils ont tous lâché en cours de route. Tout premier jour de la première année de la pré-rentrée en prépa, je me mets au premier rang pour suivre les cours. Parce que j'étais vraiment... j'étais motivé. Hein, okay. Voilà, je jouais ma vie, quoi.
Ouais.
Et il y avait une... Donc, je connaissais personne à la prépa. Pour le coup, je ne connaissais personne.
Et il y a combien de personnes là dans cette salle à ce moment-là?
Alors, dans la fac, dans la première année de médecine qui concourt, il y a 1200... Nous, on était 1200. Mais bon, après, le ratio de prix, en fait, c'est, en pourcentage, c'est le même. C'est toujours 10% des gens qui valident, en fait, la première année.
OK.
10 ou 1%, maintenant, ils ont augmenté. Donc,
ils vont l'augmenter, ouais, j'ai entendu. OK, donc, t'arrives dans cette à
voilà.
La prépa.
J'ai une petite là à côté de moi qui me dit j'ai pas compris ce qu'il a dit et du coup moi je dis qu'est-ce qu'elle me veut celle-là.
Je suis pas là pour me faire des potes.
Sur le coup je suis pas là pour me faire des amis en fait, qu'est-ce que tu me veux? Et du coup je lui réponds parce que je suis poli
quand même, un peu d'éducation.
Ouais, c'est ça. Mais j'étais pas compète en fait, j'étais compète tout seul avec moi, mais j'étais pas compète avec les autres. Pour moi, il fallait que je me fasse une petite place entre le 50 et le 51e, mais ça allait pas tant bouger tous les autres, quoi.
D'accord.
Si tu veux. Oh. Voilà. J'étais pas compète avec les autres, mais voilà, j'étais focus là-dessus, sur les cours. Voilà. Et puis du coup, elle insiste, elle me parle, et en fait, on devient les meilleurs amis du monde.
Ok.
Elle me propose de manger avec elle ce midi-là, et puis on mange, et puis on apprend à se connaître, et puis finalement, en fait, quand tous mes potes de lycée ont quitté la fac, il me restait que elle. Donc en fait, les 4 derniers mois de la première année de médecine, en fait, je les ai passés qu'avec elle, en amphi. Et après, en fait, c'est devenu mon autre meilleur pote.
Ton binôme de fac.
Ouais, mais comme la première dont je t'ai parlé au collège, Elle, c'est pareil, sa rencontre, ça a été...
Incroyable.
Enfin, je leur fais des petites...
petites déclarations.
Ah ouais, mais franchement, mais je te jure, quand je repense à ces amitiés-là, je pourrais pleurer parce que je pleure pour tout. Je suis très émotive, donc voilà. Dès que ça déborde, tu sais, je pleure, quelle que soit l'émotion.
C'est bien. Ça, c'est la thérapie, ça t'a fait du bien.
Après, dans mes années médecine, quand j'ai vrillé, franchement, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs et elle a toujours répondu présente.
C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est des vrais très bons amis. Mais si ce sont des si bonnes amies, c'est que tu dois être un très bon ami aussi.
Des fois, je me remets en question, je me culpabilise.
Évidemment, mais on a les amis qu'on mérite. Donc, tu fais tu passes cette première année.
Ouais.
Tu es toujours anesthésié sentimentalement.
Oui.
tu comment ça va se passer les parce que tu es anesthésié sentimentalement sexuellement vers l'autre, mais par contre tu as quand même des amis, tu utilises quand même des liens affectifs. Alors c'est vraiment ce rapport là amoureux quoi que tu ne t'autorises pas.
Donc là, je termine ma première année de médecine et l'été de la médecine, il y a un stage d'un mois obligatoire pour apprendre les soins infirmiers.
Ok.
Donc là, pareil, moi, je suis très content, je débarque.
Pratique, enfin.
La pratique, premier stage à l'hôpital, trop content. Dans les yeux, tout ça. Et puis, moment de réflexion, là, la fin de la première année de médecine, elle est dure, hein. Parce qu'en fait, il y a tout qui redescend, enfin, tu relâches tout et tu dis, en fait, ça fait un an que je suis seul. Que...
J'ai perdu tout le monde.
Ouais, que j'ai tout lâché, que je connais pas l'actualité.
Ouais, ça doit être un truc.
Tu sors de ta tanière et franchement, le coup, il est dur à accuser. Tu dois apprendre à re-sociabiliser, tu dois te. Et je me rappelle le jour où j'ai reçu la validation du concours, j'étais chez mon père justement. Du coup, je débarque dans la cuisine avec le papier marqué admissible. Quoi. Et là, il s'effondre en larmes. Pour le coup, le côté très émotif.
ça vient de lui.
ouais, donc lui, très. Voilà, trop fier, machin. Et en fait, c'est là où ça a été compliqué parce qu'en fait, derrière. Il n'a pas du tout suivi et en fait au fur et à mesure des années je suis devenu, et là je le cite, un connard d'élite. Voilà,
c'est dur ça.
Ouais, ça a été très dur à entendre, il m'a vraiment mis la misère pendant plusieurs années.
Parce que tu es devenu ce médecin intellectuel un peu intouchable pour lui.
Ouais, mais je pense que pour moi aussi, parce que en fait, je me crée une identité. Tu vois, à la fin, du coup, enfin, au fur et à mesure des années, je me suis créé cette identité-là de me dire, bah en fait, les gens maintenant, ils vont me voir comme un médecin.
Ouais.
Ils vont pas me voir comme un homosexuel, tu vois.
Ok, je comprends.
Ça me permettait de détourner le regard en fait des gens. Donc, je valide ma première année de médecine et finalement, là, je me dis, bon, Erwan, on recommence pas les erreurs du passé, mais je deviens le mec le plus sociable du monde. Vient le week-end d'intégration, la semaine d'intégration. Hard, comme on peut le s'en douter.
Hard dans la fête, dans les
dans la
les
fête, activités. La buvette, le sexe.
Et donc toi, à ce moment-là, t'en es où dans le sexe que t'as toujours rien fait ?
J'ai toujours rien fait.
Tu es toujours dans quelque chose de... C'est loin de moi.
Ah oui, ouais, toujours.
Ok.
Et donc là, je me dis, bon, c'est le moment où il va falloir... tester. Puis là, au week-end d'intégration, bah, allez, hop, c'est la fête, voilà, je teste.
Mais tu vas vers les filles ?
Vers les filles.
Ok.
Mais...
Donc tu roules des pelles aux meufs.
Exactement, okay. J'ai des relations d'un soir.
Donc des relations sexuelles ?
Ouais.
Bourré ?
Ouais.
Attention à l'alcool, c'est extrêmement dangereux pour la santé, à consommer.
Mais jamais au blackout, quoi.
Non, c'est bien sûr, mais sous quand même. Tu vas ivre, enfin en tout cas, t'es dans la fête.
On est tous les deux ivres, j'y vais. Mais tu vois, par exemple, quand je sentais que en face, la fille était vraiment
pas tout à fait...
trop ivre,
ouais.
Je la raccompagnais, mais j'allais pas plus loin.
Ça te fait quoi d'avoir ces relations intimes ?
Rien.
Ok, mais même dans la sensation, dans le... Parce que jusqu'à maintenant, tu connais tes droitiers, ta main droite. Mais du coup, ça fait quoi de rencontrer enfin un corps de femme, un autre corps à étreindre ?
Ben rien.
Rien.
Moi, vraiment, c'était... En fait, dans ma tête, c'était... Ah, chouette, je vais pouvoir raconter demain à mes potes...
Que je
suis hétérosexuel, en fait.
Et t'y croyais ?
Et j'y croyais, hein.
Ah, waouh.
J'y croyais. Mais tu vois, le week-end d'intégration, par exemple, j'avais roulé des pelles à un mec. Oui. Mais et là, si j'avais senti quand
c'était
même,
un petit peu plus...
j'avais senti que bon, voilà,
tu réagissais un peu différemment.
Ouais, voilà, que mon corps réagissait différemment, mais voilà.
Mais sans y prêter une attention.
Ah ouais, mais je te dis, hein, le cérébral là, vraiment, mais il occultait tout quoi. J'y étais pas du tout. Puis là, en fait, on poursuit la deuxième année. Et là, je me fais très très pote avec un garçon de ma bande de potes, parce qu'on était une bande, on était une quinzaine de potes dans la bande mixte. Hein, Et là, je change de position pour t'expliquer.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, tu te rapproches.
Je vais devenir...
t'es un peu plus dans la douceur, exactement.
Ouais. Et donc là, je rencontre ce gars. Ce mec, mais vraiment, mais pour moi, c'était... Enfin, c'était un, il était doux, il avait une sensibilité, il était, enfin, je lui trouvais toutes les qualités du monde. Et je m'étais dit, ouais, bah, lui, j'ai trop envie d'être pote avec lui.
Donc tu l'envisages comme un ami potentiel, un ouais. super ami.
Ouais, on devient vraiment inséparables en soirée. On passe plusieurs temps, plusieurs moments vraiment tous les deux à se parler. Enfin, c'est vraiment, la relation est vraiment très sympa, quoi. Et puis un jour, on part, parce qu'on a les ski métines, où on part une semaine au ski avec la promo des deuxième et des troisième années. Je me sentais pas bien. Pendant cette semaine, c'était, tu vois, ouverture des pistes, tu skis toute la journée, la buvette, la buverie le soir.
Quelle santé
les... Non mais vraiment, hein, c'est ça, hein, les années médecine, ça a été... des
le foie prend
cher. Ah oui, on se prenait des grands chelems de semaines entières à boire de l'alcool. Hein,
mais comment faites-vous?
Ben, je sais pas, t'es vraiment dans l'euphorie. Il y a ce côté où...
Ouais,
on t'en demande énormément à la fac et du coup, ben toi, en fait, quand tu sors, t'as juste envie de tout lâcher, qu'on arrête, qu'on te foute la paix. En fait,
c'est beaucoup de... Pour les gens qui sont sensibles, en tout cas, qui ont un terrain psychologique fragile, c'est très, très, très lourd, je trouve, comme, de faire des up and down comme ça, tu vois.
Ah ben, il y en a chez qui ça le fait pas. Hein.
Bien sûr. Donc, tu fais cette... Donc, cette semaine-là, tu te sens pas super?
Voilà, je me sens pas super. Je trouve que ce gars me calcule pas trop.
Et ça pose un sujet pour
ça,
toi.
Ça me pèse.
Alors que c'est qu'un ami, finalement.
Ouais, alors que c'était un ami. Et puis finalement, on se retrouve dans le télésiège à un moment que tous les deux, ils ne me parlent pas du télésiège. Et là, je commence à me dire, il y a un truc, c'est pas possible. Et puis un soir, je te dis, hop, ça pop dans ma tête. Et là, je me dis, je crois que je suis amoureux de lui, en fait.
Comment t'accueilles cette information?
Ah, mais ça me vient dans une violence psychique énorme, quoi.
Peut-être qu'on sait aussi que c'était pas bien quelques jours avant. Peut-être que tu sentais que ça maturait.
Mmh. Oui, ça maturait. Et là, je m'effondre. Mais je m'effondre.
Ah oui.
Je m'isole, je pleure toute la soirée. J'étais vraiment...
Est-ce que t'arrives à te souvenir pourquoi? Parce que c'était lui, parce que ça avouait une homosexualité latente, parce que t'étais en face de ta vérité, peut-être tout.
Alors moi, sur le coup, je me disais parce que c'était mon meilleur pote et que j'allais gâcher quelque chose.
Bien sûr.
Et qu'il fallait alors lui avouer ça. Mais je me disais pas du tout que j'étais homosexuel, en fait.
D'accord, c'était lui.
Oui, c'était ça. Et là, je me dis bon, enfin.
Puis j'ai couché avec des filles.
Oui.
C'est pas moi.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, en médecine, il y a ce côté. Il y a ce côté très malsain de... Je pense que c'est pour ça que je suis rentré là-dedans aussi, à nouveau, pour détourner le regard des autres. Mais il y a ce côté très malsain où, en fait, il faut... quand t'es un garçon, parce que tout est socialement construit, en fait, on n'est pas tellement différent. Quand t'es le garçon, plus tu ramènes de shop, de soirée, plus t'es le beau gosse, machin. Et si t'es une nana, plus t'en chope et plus tu vas être catégorisée comme
slut-shaming à fond, voilà. Bien sûr.
Et donc en fait ça c'est trop triste et moi je pense que intérieurement j'avais compris ce mécanisme et je me suis dit ben je vais avoir le plus de chopes possible
pour valider
le fait que je sois le mec qui chope les nanas en soirée et qu'en fait, on me foute la paix avec... parce que pareil, en arrivant en médecine, je l'ai entendu quelques fois, bah, Erwan, il doit être homosexuel. Voilà.
Mais c'est fou que dans un milieu comme ça, et surtout, encore une fois, t'as moins de 30 ans, donc que ce soit encore présent, que ce soit un sujet, ou c'est toi, tu penses, qui en faisais un sujet?
Je pense que j'en faisais un sujet parce que petit à petit, en fait, je me suis rendu compte parce que finalement, bon, même si, en fait, tu vois, la sexualité en médecine est très décomplexée en même temps très stéréotypée.
Rapport de domination, soumission, hétéronormée, tout ça.
Exactement. Pour la plupart, en fait, il n'y a qu'un seul schéma du rapport sexuel.
Il n'y a pas d'asso queer ou de choses comme ça en médecine?
T'as une asso globale pour toute la promo et t'as un
département,
un pôle santé globale solidarité qui aborde un peu ces questions-là.
Mais t'as pas vraiment une représentation queer des étudiants en médecine
Non. En deuxième année, on avait eu un cours qui était proposé, non obligatoire, un cours de sociologie du genre.
Ouais.
Et de la sexualité.
Hyper intéressant.
Sur une promo de 170 personnes, on était 20 dans la salle.
Ah oui. Voilà. Ah oui, les gens ne se sont pas intéressés au sujet.
Pas du tout.
Quel dommage. Pas du tout. Parce que, bon, là, on fait un petit aparté, mais typiquement sur la transidentité, tu vois, c'est important quand même que les médecins de demain soient très à l'aise avec des hommes trans, des femmes trans dans leur auscultation. Enfin, tu vois.
Oui, et en fait, c'est d'autant plus difficile quand la personne n'a pas encore transité. Et là, mais pas que les médecins, enfin tout personnel,
mais socialement,
qu'on devient complètement maladroit. Et en fait, je pense que juste ce qu'attendent les gens, c'est
un minimum de bienveillance.
Bah, c'est juste qu'on mette les pieds dedans et qu'on dise voilà.
Votre pronom.
Voilà comment je vous appelle. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais, aux urgences, de recevoir des patients transgenres, donc qui n'avaient même pas encore débuté leur monothérapie. Bah, souvent, quand t'es médecin, tu viens après.
Ouais.
Donc, on t'a déjà prévenu. Et en fait, quand j'étais allé interroger cette patiente, elle m'avait dit, je l'avais interrogée sur ses principaux antécédents médicaux. Mm-hmm. Et la personne m'avait dit, j'ai une maladie qui s'appelle la dysphorie de genre. Là, là, on va reprendre. Je dis, ça n'est pas une maladie. Ouais, et en fait, je m'étais assis, j'avais pris le temps, tu vois, de lui expliquer que moi, je le voyais pas du tout comme ça, et d'essayer d'avoir une approche, parce qu'en fait, pour que cette personne-là, elle se sente totalement en confiance et écoutée. Et en fait, t'en gagnes d'autant plus dans l'alliance thérapeutique. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, parce que la définition de l'OMS de la santé, elle, comme je te disais tout à l'heure, elle englobe quand même la santé sexuelle. On peut pas dire, moi, la santé, je suis médecin, la santé, c'est la santé organique, quoi.
Très intéressant cette approche. Donc du coup, effectivement, revenons-toi à ce moment-là où tu te rends compte... Non, je t'en prie. tu te rends compte que tu es amoureux de ton ami. Comment tu vas le...
Lui annoncer ?
Alors, je ne sais pas si tu vas l'aimer, du coup, tu vas lui annoncer. Comment tu lui annonces ? Comment tu vis avec ? Comment tu l'acceptes ? Comment tu...
Alors, donc j'ai une copine à moi qui me trouve dans sa chambre...
En PLS, quoi ?
En PLS. Et qui me dit, vraiment une super belle personne aussi, avec l'amie dont je te parlais, que j'ai rencontré au début de ma première année là, de médecine. On est devenu un petit trio, on s'est fait des voyages ensemble et tout, donc, et aujourd'hui on est encore un trio en fait. Donc elle vient et elle me dit, oh là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc là, je me suis vraiment senti en confiance avec elle, en sécurité, parce que c'est vraiment quelqu'un qui inspire ça. Et je lui dis tout. Je crois que je suis amoureux du garçon en question.
C'est beaucoup d'informations.
Depuis le début de la semaine, enfin, voilà, j'étais vraiment pas bien. Voilà. Le lendemain, donc, je mets ma pote du début de la médecine. Je lui mets la deuxième dans la confidence. Et là, pendant peut-être un mois, ça reste entre nous trois.
Ok.
Et donc, je vis trop mal le temps que j'accepte, tu vois, moi-même, ce qui se passe, machin. Mais pour le coup, j'étais pas homosexuel, toujours pas. Hein.
Non, t'étais amoureux de ce garçon.
Ouais. Donc là, je me ferme à lui complètement et il s'en rend compte. Et du coup, un jour, il vient me voir en soirée et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, machin et tout. Et bon, là, je lui dis, viens, on va parler. Donc on parle et là, j'avoue tout, quoi. Je lui avoue tout, je pleure, il pleure, il me raccompagne chez moi, il me fait comprendre qu'il pourra jamais me rendre ce que je veux.
C'est déjà incroyablement chouette qu'il ait accueilli cette...
Aujourd'hui, aujourd'hui je me rends compte que qu'il a été, qu'il a eu une réaction super, super bienveillante, bien super adaptée
C'est génial.
C'est un super mec, hein, franchement. Ouais. Ça a été une des mes, ça a été très éphémère, mais ça a été une de mes plus belles rencontres, je pense.
Donc là, t'as le cœur brisé.
Cœur brisé, aller chez ma pote. Tous les soirs, allô, je suis en pleurs, est-ce que je peux venir dans ton lit ? Et à passer des nuits avec elle parce que ouais, ça allait pas, quoi. Et puis, j'étais dans cette phase où je sortais plus, j'étais pas bien.
Chagrin d'amour.
Voilà, et je me mettais dans des états en soirée.
Ah bah oui, le chagrin. L'alcool et le chagrin, spoiler, ça fait pas bon ménage. On ne boit pas quand on est malheureux ou malheureuse.
Ouais, donc je me suis mis dans des états, mais ça a été mes seuls blackouts.
Ah ouais.
Ouais. Et donc toujours mes potes, là, mes deux potes
qui
me ramassaient la petite cuillère, qui étaient toujours là pour moi, toujours à m'écouter, je radotais plein de trucs et tout, mais elles étaient là. Et... Donc parallèlement à ça, je rentrais le week-end chez moi, toujours plein de problèmes dans la famille, voilà, des gens qui vont pas bien, mon frère qui était en rupture avec sa copine, enfin...
Donc pas de place pour toi.
Donc voilà, donc Erwan y rentrait, c'était l'épaule solide.
Alors qu'à l'intérieur, t'étais...
Voilà, et donc, je te jure, le vendredi soir, je prenais ma voiture, et pendant le trajet, je fermais tout, comme quand j'étais au lycée.
Ah ouais, c'est fou ça, cette capacité de...
De switcher.
De vriller de personnalité. Ouais. De... Ok, donc t'arrives, t'es l'homme fort,
exactement.
L'étudiant qui réussit, tout va très bien.
Voilà, un peu pète sec. Alors moi, je me suis caché derrière les études. Et ma mère, des fois, elle m'interrogeait et je disais... toujours très pète sec, hein, parce que du coup...
C'est comme ça que tu communiquais avec eux, parce que t'arrivais pas...
Ouais, c'est ça. Et je disais, ouais, tu sais, il y a des soirées, ça va, ça vient. Voilà, toujours des réponses très floues. Voilà.
Donc tu continues tes années, t'as ce gros chagrin d'amour.
Ouais, sauf qu'en fait, comme on faisait partie de la même bande de potes, ça a été très, très, très dur.
C'est
dans
dur.
Une bande, je te dis, où la sexualité est très stéréotypée. Du coup, parce qu'en fait, petit à petit, les membres de la bande l'apprennent. Et pendant 2 ans, ça reste dans la bande. C'est-à-dire que c'est tabou, personne n'en parle à droite à gauche.
Mais ils savent que toi, t'étais amoureux de lui.
Exactement.
Et que lui ne donnait pas suite à cet amour.
Exactement. Ça me brisait le cœur, en fait, de les voir rire tous ensemble et où moi, j'étais complètement inhibé. Et en fait, si tu veux, il n'y avait pas de place pour ma sexualité à moi. Parce que là encore, tu vois, je me disais, on aurait pu me tendre une main et en fait ça parlait de la dernière nana qui avait été chopée à la soirée, machin,
la masculinité toxique au sommet.
Ah oui, mais au possible.
Tu penses que c'est en médecine qu'il n'y avait pas de place pour ta sexualité, ou c'est parce que c'était ces gens là à ce moment là
Non, je pense que c'est parce que c'était un petit boys club,
d'accord,
tu vois,
classique.
Voilà, classique. Et du coup, comme moi j'en avais fait un tabou, je pense qu'eux en avaient fait un tabou.
Bien sûr. Et puis personne n'était capable de le lever, quoi. Enfin...
Et personne n'était capable de me dire « Bah alors, et toi, Erwan, qui t'intéresse là en ce moment ?
Oui,
t'as un crush sur qui ?» Machin, machin.
Ou sans forcément être direct, juste laisser supposer dans une conversation que on peut aussi, dans ce groupe-là, être homo, bi, peu importe. Mais je vois ce que tu veux dire.
Juste des copains qui parlent de leur crush d'adolescent, de jeunes adultes. Et en fait, pendant des années, ça a été un inhibé complet. Et du coup, je me suis vraiment fermé à toute sexualité. J'ai eu aucune relation pendant 2 ans.
Ok.
Voilà, le temps de digérer un peu tout ça. Et je m'investissais dans mes études, parce que pour moi, il n'y avait que ça, de toute façon,
qui te donnerait cette valeur, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Je réussissais, j'avais l'impression que c'était le seul truc dans ma vie que je réussissais. Enfin, pas dans ma vie, mais j'avais l'impression que c'était le seul truc actuellement que je réussissais.
Et puis socialement, il y a quelque chose de très valorisant.
Oui.
D'être médecin et de réussir.
Ouais, alors les études, t'es un peu un moins que rien à l'hôpital.
Je parle socialement, justement, dans le... Je veux dire, ta mère qui dit, mon fils est médecin. Enfin, tu vois, et ton père le dit de façon extrêmement maladroite. Mais il y a ce truc de, tu vois.
Alors ça, parallèlement, c'est vrai que mon père, ça a été très, très dur à le gérer. Mmh. Et en fait, petit à petit, du coup, il y avait des blocages quand même en moi, mais je sentais que je pouvais être attiré par les garçons. Donc à cette époque-là, j'étais bisexuel. Ça y est,
t'assumes, t'es bisexuel.
Oui, je pense qu'en fait, on
beaucoup
est
de garçons, enfin pas tous,
je pense qu'on est beaucoup à passer
par là. Et puis il y a des bisexuels qui sont bisexuels, mais effectivement, beaucoup d'homosexuels passent par là.
Et en même temps, j'ai envie de dire, à l'époque où je disais que j'étais bisexuel, en fait, j'étais bisexuel. Ne venez pas remettre en question ce que je suis en train de vous dire. J'ai des relations sexuelles avec des filles, je suis intéressé par des garçons, je suis tombé amoureux de mon meilleur pote, je suis bisexuel et foutez-moi la paix. Et je voulais pas en entendre parler, c'était comme ça, vous m'écoutez, je dis ce que j'ai à vous dire et en fait...
Tu me fais un peu peur là, d'accord.
Non mais voilà, et j'étais en mode, il est pas question que quelqu'un vienne remettre en question ce que je dis.
Mais t'as raison.
Et donc mon père avait été... Donc là, il y a eu la phase du Covid. Là. Il m'en a fait vraiment baver parce qu'en fait...
Il s'ennuyait. Il était inquiet pour lui ?
Je sais pas, il y a toujours eu cette espèce d'amour violent où il fallait que je lui rende des comptes, où il fallait que... Ah, mais tu te rappelles, quand t'étais petit, j'ai fait ça, et puis toi, tu... Enfin, t'es un mauvais fils, et
il
et
joue
ceci.
Sur la corde de... Oui.
C'est là, j'avais l'impression de jamais en faire assez. Donc je me suis culpabilisé, et en même temps, des fois, il tenait des propos très homophobes... violent et moi c'était dans cette époque-là où j'étais en miettes quoi et en fait inconsciemment mais enfin inconsciemment partiellement parce que je me le disais quand même je me suis dit la pilule elle passera pas auprès de lui et donc du coup je vais mettre des freins avec lui parce que non seulement il me prend la tête avec ces histoires de Covid, complotistes et machin.
Ah, pardon, à dire j'avais que... pas compris, bien sûr, évidemment, ouais, bah bien sûr.
À dire juste... que le corps médical, c'est que bien des sûr, vendus, des machins sûr. Et tout. Et puis à côté de ça, d'aller dire, ah ben mon fils, il va devenir chirurgien, et puis machin, enfin.
Oui, voilà. Donc même, enfin, il y a une séparation intellectuelle à ce moment-là assez forte, je veux dire, entre un père ouais, complotiste
énorme,
et
énorme.
Un fils qui est médecin dans une médecine moderne, ça doit ouais. être assez un sacré... Oui, il y a un sacré gap qui se creuse, quoi.
Donc, ça a été ça pendant plusieurs années. Et du coup, ma mère, je lui dis, je sens que là, il n'est pas en forme, papa. Ça, franchement, il est odieux. Et je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Trois semaines plus tard, il m'appelle. Il a une douleur thoracique. Et donc là, bien content de le trouver, le médecin.
Le fils médecin.
Donc là, je dis, oh là là, mon Dieu, il y a des antécédents cardiovasculaires dans la famille. Il est en train de faire un infarct, machin. Donc, je dis... Tu vas aux urgences, on perd pas de temps. Il était le soir et tout ça. J'étais en train de bosser pour mes partiels, moi. Et effectivement, il était en train de faire un infarct.
Ah ouais.
Trois semaines après que je dise à ma mère que je le sentais pas en bonne,
ah ouais,
je le sentais
quoi,
pas bien
ouais.
quoi. Il était mais désespéré. Il avait eu très peur. Tu vois, il a arrêté la clope du jour au lendemain parce qu'en fait, il fumait depuis très très longtemps. Il a arrêté la clope du jour au lendemain. Et moi, j'ai trouvé ça mais incroyable. Enfin.
Mais du coup, ça a dû aussi valoriser dans votre relation parce que d'une certaine ouais. façon. Pardon pour le résumé, mais tu lui as un peu sauvé la vie parce que si tu n'avais pas appelé, tu lui avais pas donné ce conseil, il aurait peut-être passé la nuit.
Et il aurait fait la crise cardiaque à la maison. Oui.
Tout seul, enfin ou pas, enfin, mais le, en ouais. tout cas compliqué quoi.
Enfin, ça a toujours été.
Donc,
voilà,
c'est une relation très ambiguë quoi.
En dents de scie quoi. C'est à la fois il y a sa fierté, un amour que je remettrai jamais en question, mais un amour qui s'exprime dans une violence extrême.
On veut le reveal. Parce Donc. Que moi, il y a un deuxième prénom qui est écrit.
Ah oui. Je pense que le Covid, je ne l'ai pas super bien vécu, le confinement.
Ouais. Tu bossais du coup comment
Je bossais énormément parce qu'en fait, j'étais à un an du concours. Les gens bossaient beaucoup moins, ils avaient lâché un peu et D'accord. tout ça. Et moi, j'avais dit je bosse. Je veux pas prendre de retard pour le concours, je bosse. Je me mets une pression de malade et finalement, je passe le partiel en condition d'examen et du coup en fait je valide pas mon partiel
oh là là.
Parce que tout le monde avait eu des 15-16 parce qu'en fait ils avaient fait les partiels en groupe avec leurs cours enfin tu vois donc je prends rendez-vous avec la fac
donc c'est à dire que toi-même tu te mets en condition d'examen
oui tu t'obliges. Je m'étais mis tout seul chez moi avec ma connexion sans mes bouquins à me forcer à pas regarder dans les bouquins ah oui. Quand je te dis que je suis très contrôle fric, okay. c'est... Voilà,
alors que tout le monde avait Google à côté, quoi.
Ouais. Et je valide pas mon partiel, je suis le seul de la demi-promo à pas valider mon partiel. Donc là je prends rendez-vous avec la fac, je dis mais vous rendez compte. Ils m'ont dit oui, mais comme d'habitude, t'es plutôt dans le premier tiers et que là, tu te retrouvais dans les derniers. On s'est dit qu'il y avait peut-être des choses qui étaient moins acquises. Et je dis, vous êtes pas dit peut-être que aussi les gens ont passé leur examen...
Pas dans les conditions.
Dans les conditions qui ne sont pas les bonnes. Oui, probablement. Bon, ils n'ont rien voulu entendre. Donc, je vais au rattrapage. Et donc, en fait, je me dis, le seul été qui me restait avant cette année de concours, je vais devoir le passer à bosser mes rattrapages. Ouais. Et donc là, j'ai vrillé.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire...
C'est là que tu commences la thérapie ?
Ouais.
Tu oui. vrilles parce que c'est quoi ? C'est qu'à l'intérieur, ça... y a plus de sens, il y a de...
Alors, au départ, je consulte une psychiatre.
Ouais.
Parce que...
Et docteur.
Ouais, parce que c'était gratuit, surtout, avec mes maigres revenus d'étudiants en médecine.
Faut pas oublier qu'ils sont médecins, mais fauchés au début.
Donc, c'était une des psychiatres du CHU qui faisait de la consulte étudiant en médecine. Première consulte, je m'effondre en pleurs.
Évidemment.
Dans la, voilà, parce que déjà, le fait de te rendre compte que tu as eu besoin d'aller voir une thérapeute, c'est que moi, pour moi, j'étais en échec. Alors que pas du tout. Hein, tu le comprends après, bien mais sûr, pour moi j'étais en échec. Moi qui verrouille tout depuis des années. Hein. Elle me demande, donc elle m'interroge sur tout, sur ma vie affective, ma vie familiale, ma vie scolaire.
Rien, voilà. Ça se passe pas ouf.
Voilà, et en fait elle se rend compte finalement que mon contexte de vie fait que ça a une répercussion sur mon travail et du coup je travaille plus suffisamment, et elle se dit mon objectif c'est de remettre cet étudiant au travail. Au bout de 4 consultations elle avait fait son job, parce que je rappelle quand même que les psychiatres, parce que souvent on fait l'amalgame, mais les psychiatres sont des médecins qui font de la thérapeutique, qui voient des signes cliniques, qui en font des syndromes, il y a des maladies qui sont décrites dans le référentiel nosologique des psychiatres. Ils les traitent avec des thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec cette idée, le psychiatre, il s'en foutait, il n'a rien écouté, et puis... Mais c'est parce que le psychiatre, c'est pas le psychologue. Le psychologue, c'est vraiment le complément. Hein. C'est vraiment deux métiers différents. Hein.
Oui,
c'est...
le psychiatre va te dire, vous faites une dépression, vous avez un trouble bipolaire, enfin, n'importe quoi, mais toutes les maladies mentales et la santé mentale, effectivement, il va résoudre ça. Et effectivement, le psychologue est là pour discuter et trouver.
Donc, elle, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, écoute...
Donc, elle te diagnostique quoi ?
Rien du tout. Okay. Elle me dit, écoute, je veux pas te brusquer, je suis toujours là s'il y a besoin. Je pense que là, tu traverses une phase difficile de ta vie. Et je pense que ça se résoudra en thérapie avec quelqu'un de compétent dans la psychologie. Et donc là, je me dis, oui, parce qu'en fait, je m'étais dit, elle va me trouver un trouble de perso, une dépression sous-jacente.
Tout de suite, on est parti sur des gros
sujets.
Ouais,
donc je me dis, voilà. En fait, elle ne me trouve rien du tout. Je suis content, hein, je ne dis pas... elle me dit aussi qu'elle, au bout de quelques consultations, elle trouve que je me suis quand même plutôt bien remis au travail, donc que ça ne nécessite pas d'introduire un traitement. La psychologue, pour l'instant, ça peut être pas mal. Et puis après, on réévalue si jamais il y a besoin d'un traitement. Mais voilà, il n'a jamais été question de me mettre un traitement. Je vais en consultation. Rap, je pleure. Elle me dit, bon, je vais me présenter. Voilà.
Elle n'avait même pas eu le temps de se présenter.
Non, mais voilà, elle dit, je vais me présenter. Ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, elle me dit son nom, son prénom, le courant qu'elle suit, comment elle travaille. Donc voilà, je fais de la thérapie brève, comportementaliste.
Super. Donc c'est peu de séances.
Elle m'avait dit, elle me dit une thérapie brève en moyenne, c'est 1 an. Et elle me met dans une confiance. Mais je te jure, l'énergie, je me suis dit, ça va matcher. Ouais, on est dans la même vibe, pétillante, pleine d'énergie. Jeune et en même temps
tu sens que t'es bien encadré quoi.
Ouais, et super. En fait j'avais compris dès le départ, enfin au bout de 4 séances, qu'elle avait compris, parce que je lui ai pas dit tout de suite. Au départ je suis arrivé avec mes problèmes familiaux, tu
bien
vois
sûr.
Le premier truc que je lui ai dit, et je peux te le citer, je m'en rappelle très bien, c'est voilà, j'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être comme un funambule qui marche sur une corde. Cette corde, c'est la médecine. Je regarde droit devant moi. Et puis, il y a plein de perturbations à côté qui me font basculer.
Et difficilement trouver mon équilibre.
Voilà. Et je dis, et là, la corde, en ce moment, elle est moins tendue. Et du coup, je penche.
C'est une belle image, en tout cas.
C'est ça, ouais.
Okay.
Je lui avais dit ça. Elle me dit, OK.
OK.
Donc, pareil, comment
tu parles de ta famille.
Et j'axe très vite sur ma famille. Je ne veux pas parler. Pour moi, il n'y a pas de sujet sur l'homosexualité.
Bien sûr.
Il n'en est pas question d'en parler. Voilà.
Okay. Et elle commence à ouvrir cette porte.
Non. Mais
c'est toi qui vas l'ouvrir.
Mais elle avait compris.
Okay.
Elle avait compris. Tout de suite, je le sais. Parce que je lui parle quand même de cet ami dont j'étais encore fou amoureux après 3-4 ans de désespoir. Franchement, j'en étais arrivé à un point, mais...
Ouais.
Mais j'ai jamais eu un fond dépressif, donc...
Tu t'es pas laissé happer par ça, mais
ah non, jamais.
Ça a été quand même un très gros chagrin d'amour.
Ouais, ouais. Mais,
Donc t'avances sur cette thérapie ?
J'avance sur la thérapie. Elle avait capté que j'intellectualisais tout.
Mm-hmm.
Donc en fait, elle savait que pour me faire avancer, il fallait qu'elle me sorte des concepts,
des schémas,
des théories, des livres, des mecs qui avaient dit tel truc dans la sociologie. Enfin voilà, elle savait que c'est comme ça que j'allais avancer. Et en fait, entre les séances, moi, je m'auto-régulais.
Elle a su rééduquer ta façon.
Mais un professionnalisme. Mais moi, génial. Cette femme, je pense que. Enfin, je lui voue un remerciement ultime parce que sans elle, je pense que j'aurais pas avancé autant.
Ouais. Tu vois, dans que tu n'aurais pas surtout réussi à retrouver un équilibre intérieur. Surtout qu'il y a beaucoup, là, on est, enfin, ton bien-être à toi, mmh. il est quand même très secondaire dans tout ce que tu viens de raconter, quoi.
Au bout d'un an de thérapie, un jour, je débarque en consulte. Je dis, bon, écoutez, on va arrêter de tourner autour du pot. Je pense que vous avez très bien compris. Je pense que je suis homosexuel. Et maintenant, il faut que vous m'aidiez à l'accepter.
Il y a eu un élément qui a déclenché ça ?
Un élément précis, je ne suis pas capable de dire. Je pense qu'en fait, c'est quand vient le moment où c'est plus énergivore de canaliser ou... plutôt que de lâcher.
C'est très, très juste ce que tu dis.
Je ne sais pas si ça remonte à la séparation de mes parents, mais j'ai toujours eu ce sentiment d'abandon. Et je me suis senti abandonné par la médecine, je me suis senti abandonné par mes potes, je me suis senti...
Ce sentiment d'abandon, c'est ta blessure ? C'est ce qui te...
Ah oui, c'est ma blessure que je porte encore aujourd'hui. Hein.
J'entends.
Ouais, donc elle, en fait, au départ, la psy, elle m'a dit, on va travailler sur les schémas familiaux, où elle m'a dit, en fait, personne n'est à sa bonne place dans cette famille. Mmh. Donc elle a dit, vous avez endossé le rôle de l'homme de la maison, qui prend tout sur ses épaules, qui gère tout, qui n'a pas le droit d'avoir de soucis, ou alors qui les cache et tout. Mmh. Et en fait, quand elle a tout bien réaccordé, c'est là où il y a eu le déclic, et où je me suis dit, bah, en fait... ma mère est capable de... Enfin, il faut que j'aie cette attitude-là avec ma mère de fils, en fait.
De fils, ouais.
Où elle peut me réconforter. C'était à peu près à cette période-là, un an après le début de ma thérapie, où à Noël, on s'était pris le chou avec mon frère et elle m'avait trouvé en train de pleurer dans la salle de bain. Et elle m'avait fait un câlin super réconfortant.
De maman.
Et je m'étais dit, mais en fait, là, je suis à ma bonne place, quoi.
C'est ça dont j'ai besoin.
Ouais. Ma maman, ouais, et en fait, ça faisait, on va dire, plusieurs années, je pense que inconsciemment, je la préparais quand même à l'annonce. Mais je voyais des références, je commençais à lui parler, tu vois. J'amenais le truc progressivement. Au départ, j'ai commencé à m'impliquer dans le changement climatique. Je lui parlais de ça, je commençais à l'ouvrir sur plein de sujets politiques, sociologiques et tout. Et puis, un jour, j'ai glissé. Les problématiques LGBT
mais c'est passé
et où en fait je sentais que bon en fait elle connaissait pas,
mais tu pensais qu'elle aurait une réaction parce que si tu préparais autant le terrain, c'est que t'avais une crainte d'une réaction particulière.
Ouais, moi je en fait ma principale crainte, c'est qu'elle se dise qu'elle sera jamais grand-mère.
Ah oui.
Bon, moi je le voyais comme ça.
C'est intéressant de penser à cette projection.
Ouais. Okay. Pour moi, je me suis dit, le jour où je vais lui annoncer que je suis homosexuel, je vais lui faire du mal parce que
elle va se
dire qu'elle sera jamais grand-mère, quoi. Donc ça a été, c'est un truc sur lequel il a fallu que je travaille beaucoup aussi. Et j'ai fait un voyage à la fin de mon concours de sixième année, donc avec mes deux copines là, on est partis tous les trois 2 mois faire du Covid dans les Caraïbes.
Okay.
C'était la vague Delta à ce moment-là, donc ça a été une vague super meurtrière là-bas. Et puis on a fait 1 mois vraiment à l'hôpital, du soins intensifs, pneumo. Ça a été vraiment très dur. Les gens arrivaient des urgences, ils mouraient le lendemain. Ça a été vraiment terrible. Ouais. Et on était vraiment quand on est rentré, on s'est dit, mais est-ce que vous avez ressenti que c'était pas nous là-bas ? Là-bas, j'étais loin de tout. Mm-hmm. J'étais loin de ce gars que j'avais aimé, j'étais loin de ma bande de potes, j'étais loin de mes parents. Et en fait, moi, j'avais reçu le classement là, de mon concours et c'était pas du tout le classement auquel je m'attendais.
Okay.
Parce qu'effectivement, en fait, mon père voulait que je sois... Enfin, disait à tout le monde que j'allais être chirurgien, etc. Et en fait, moi, je concourais pour être chirurgien. Et finalement, je me retrouve dans le ventre mou du classement. Je savais pas trop si j'allais encore avoir la spécialité que je voulais, dans la ville que je voulais, parce que je voulais rester quand même dans la région dans laquelle j'ai grandi. Mm-hmm. Tout s'écroule. Ça a été pareil, une pilule très très dure à avaler. Mais j'étais quand même à plus d'un an de thérapie.
Donc tu le gères quand même mieux.
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais. Et donc là, je dis à ma pote un soir, j'ai dit, écoute, ça fait... 4 ans que ça dure cette histoire, je suis épuisé moralement, j'en ai trop marre et je sens que j'ai envie de... Je me sens bien avec vous là et je pouvais être moi-même quoi. C'est-à-dire que c'était très totalement ok et elles en fait tout ce qu'elles avaient besoin c'était que de me sentir heureux et c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles ont dit mais en fait, parce que je lui ai dit bah écoute là pour l'instant en fait je sens que j'ai pas assez exploré mon côté... voilà, donc j'ai dit j'ai envie de m'impliquer là-dedans, de découvrir des choses, de
Mais parallèlement, du coup, tu continues à avoir quelques filles ou vraiment pas du tout?
Ah non, là, je te dis, c'est je voyais personne.
Personne.
Depuis,
donc, t'avais aucune vie sexuelle.
Ah, mais en... si j'avais, si si, pardon, je l'ai occulté, tu vois. mais j'ai eu ma première relation sexuelle avec un garçon en quatrième année de médecine.
Ah, quand même. Ouais. On n'a pas eu cette information.
Non, pardon.
C'était en soirée.
Ouais.
Toujours.
Ouais.
Donc toujours. Imbibé, quoi.
Ouais.
Et c'est lui qui prend le lead, j'imagine.
C'est lui qui prend le lead, ouais, voilà, c'est ça. Et puis finalement...
Donc il y a un acte de relation sexuelle.
Voilà, c'est ça.
Et ça te... À ce moment-là, ça te valide que vraiment...
Bah, sur le coup, je me dis, c'est vrai que comparé avec les filles, j'ai ressenti quelque chose. Le lendemain, immédiatement après l'acte, j'étais en mode, je sais pas, c'était la soirée, c'était, voilà, j'ai essayé, maintenant, on passe
à autre chose.
T'as
coché la case.
Voilà, machin, voilà. C'est, voilà. Je voulais pas recommencer.
Ok.
Voilà.
Mais là, à ce moment-là, quand tu rentres, t'as fait donc ce périple de 2 mois, tu dis à tes plus proches amis, bon, là, il faut que j'explore ça.
Ouais.
Sans alcool.
Sans alcool.
Et consciemment, quoi. Tu te fais pas porter cette fois.
Non, c'est ça. Mais donc là, je rentre et en fait, un mois après mon retour, en fait, je commençais mon internat. Donc, je changeais de ville, je changeais de contexte social, je m'éloignais de ma famille. Je m'étais dit, comme quand j'étais rentré en médecine, tu ne reproduis pas
les mêmes
schémas et les mêmes erreurs. Donc, j'ai dit, j'arrive, j'assume, je suis gay. Voilà. Mais je veux pas en faire une affaire d'État.
Ce n'est pas ma définition propre, mais je suis gay.
Voilà, c'est ça. Je vais dire aux autres que je suis gay si on me pose la question. Donc j'arrive, et puis à nouveau, il fait pote avec une fille qui m'a fait rencontrer mon copain actuel, en fait. Et elle, en fait, elle était charmée par moi, en fait, au départ. Et un jour très spontanément, parce que bon, bah, c'est, voilà, elle est comme ça, elle est très spontanée, très frontale, et donc très spontanément en soirée, elle vient me voir, elle me dit, mais est-ce que t'es gay? Et du coup, en fait, elle me dit ça, et là je la, là je bon, tu sais, vraiment les réactions de panique, et je la regarde, je lui dis oui, ah ok. Et
du coup, c'est un non-sujet.
Voilà, c'est ça.
Mais ça coche une, ouais.
Exactement. Et après et après, en fait, elle dit « Pourquoi tu l'as pas dit ?» et tout. Je dis « Bah, en fait, personne m'a posé la question. »
Oui. Et puis, on se présente pas en se disant qu'on est hétéro. Donc, pourquoi tu te présentes en étant... Voilà. Ouais.
Je lui dis « En fait, moi, tu m'as demandé. Je t'ai dit que j'étais gay. On passe à autre chose. »
Exactement.
Et...
Donc, cette fille connaît... On peut dire son prénom ? Gabriel ?
Oui, elle connaît Gabriel. Donc, c'est un de ses copains de fac. Et du coup, un jour, elle me dit « Je vais te le présenter. » Il est dans une ville...
pas très loin.
Enfin, il est pas dans la même ville que nous, mais il est pas très loin. Je vais te le présenter. J'ai dit « Bah, en vrai, moi, c'est vrai qu'il me plaît. Si tu me dis... si
tu mais tu l'avais dis... déjà vu ?
Non, jamais.
D'accord.
Si tu dis que ça peut le faire, bah écoute.
Ah oui, elle voulait vous maquer, c'était genre son projet. Ah oui, d'accord. C'était vraiment une rencontre arrangée, quoi.
Ouais, voilà.
C'était pas genre juste tiens, mon pote passe, je te le présente.
Non,
c'est
non,
vraiment,
non, non, non.
Ce mec est fait pour toi.
Ouais, elle m'a dit en gros, Erwan, on a les mêmes goûts, toi et moi, je le sais. moi, Gabriel.
Je t'ai trouvé beau, il va te trouver beau.
Je t'ai trouvé beau, et lui, je le trouve très beau. Je pense que vous allez vous trouver très beau, donc.
Mais est-ce que tu sais que t'es beau?
Moi?
Ouais.
Je sais pas.
Si, t'es un très joli garçon. Non, tu sais pas.
Bah
donc,
c'est
du coup, mais je t'en prie. Donc du coup, elle te dit donc Gabriel est très beau, tu es beau, vous allez vous plaire.
Voilà, parce qu'on a les mêmes goûts, elle me dit. Et donc je dis bon, écoute, on va pas chercher midi à 14h, on va prendre un train et on va aller passer un week-end.
Surtout que toi, t'étais dans ton projet de je veux explorer cette partie-là.
Ouais, alors avant, parce que on s'est rencontrés au bout de 6 mois d'internat.
Ouais.
Donc moi, j'avais quand même eu des expériences.
T'avais commencé à avoir des expériences.
J'avais commencé à avoir des expériences. Pas de relations sérieuses.
Mais les relations sexuelles, oui.
Ah oui.
Donc
oui,
t'avais
oui.
expérimenté le corps de l'homme.
Ouais. Ouais
et
ouais.
Alors ?
Bah et alors moi, il y avait plus de doute quoi. Enfin.
C'était sûr.
Ouais. Ouais ouais.
Et les amants que tu as pu croiser, des hommes plutôt doux, sa sexualité que t'imaginais, c'était que des étudiants
non,
de médecine.
Non, pas que des médecins.
Ok.
Franchement, je suis tombé que sur des gens super.
D'accord, qui t'ont expérimenté, ouais. qui t'ont expliqué les choses.
Ouais, 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 okay. ouais. Oui, parce que moi, je connaissais rien, j'avais besoin d'apprendre.
Ah, c'est ce que j'ai donné. Et puis en plus, avec ce poids aussi d'avoir mis autant de temps à reconnecter tes envies, tes désirs et tout, c'est quand même un apprentissage, même si
ah, oui, oui.
La thérapie t'a fait beaucoup de bien. Il y a eu quand même un... Oui, c'est ça, une convalescence et après, rééducation de tout lier, quoi.
Ah oui, oui, apprendre en fait juste à vivre pour soi.
Ouais, complètement.
Et pas à rendre des
comptes. Et puis en fonction de ses désirs à soi, quoi. Mmh.
Mais tu sais que du coup, je sais pas si c'est des corrélations hasardeuses ou pas, mais j'ai donc. J'ai coupé toute relation avec mon père au bout de 3 mois d'internat, un truc comme ça.
Parce que c'était trop difficile.
Ouais, il me mettait trop la misère. Moi, franchement, le début de l'internat, c'est vraiment hyper chaud. Enfin,
t'avais pas besoin de ça en plus.
Et en fait, ma psy, je lui en parlais beaucoup et j'essayais toujours, tu vois, de sauver les peaux, de trouver des alternatives. Je tentais des trucs avec lui pour essayer d'améliorer la situation et tout. Et une fois, elle m'avait posé la question, mais en vrai, je me dis, mais elle est tellement...
Smart.
Non, mais elle est tellement forte. Enfin, au pire, il se passe quoi ? Ben, je dis, au pire, on se parle plus, quoi. Et elle me dit, et en quoi c'est le pire ? Et alors là, je n'avais pas su quoi répondre. Et elle me dit, parce que si ne plus lui parler, c'est vous ouvrir la porte pour vous retrouver... C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, qui peut vous arriver.
Et... Oui, mais ça fait du bien de l'entendre par un psy. Parce que c'est très compliqué quand on a un enfant. Et ce que tu décris tout à l'heure, un enfant bien élevé, qui est vraiment dans le...
Qui veut faire plaisir à ses parents.
Qui veut faire plaisir à ses parents, qui se dépasse pour eux, qui veut les rendre fiers, qui n'a jamais fait de vagues, qui ne s'est pas autorisé à avoir des moments un peu compliqués, etc. Enfin, tu vois, avoir un référent comme ça qui te dit « Vous avez le droit de le faire. »
Ouais.
En fait,
c'est trop bête, hein, mais je pense que je lui avais dit une fois, on avait un peu discuté des transferts que je pouvais faire sur elle, et je lui avais dit en fait, j'ai l'impression que vous êtes mon père en fait. J'ai l'impression que vous m'apportez cette espèce de stabilité, de sagesse que je cherche chez mon père.
Les conseils qu'on aimerait d'avoir des parents et avoir effectivement des gens solides sur qui s'appuyer.
C'est ça. Et en fait, elle m'avait dit que c'était intéressant d'explorer ça et que elle, en fait, je pense que j'adoptais face à elle cette position d'enfant qui, comme tu le dis, a besoin qu'on valide en fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire et qu'on lui dise mais c'est ok, t'as le droit de faire ça, c'est
vas-y quoi.
Reconnais tes émotions, exprime-les et tout. Grâce à elle, j'ai su faire ça aussi.
Ce qu'un parent devrait pouvoir faire avec son enfant et bien sûr
et en fait c'est dans la construction de l'enfant et où bien tu te rends compte qu'on n'a pas quand t'es un enfant en bas âge t'as pas la capacité cognitive de réfléchir par toi-même et en fait
c'est aux parents d'apporter ça
exactement
et
tout ce que les parents en fait disent c'est ce qu'il faut faire
bien
en fait.
Sûr c'est la parole et surtout quand c'est tes parents sont eux-mêmes dans une forme d'instabilité ou un rapport émotionnel qui est compliqué ou en tout cas une construction qui n'est pas encore aboutie ou en souffrance. Typiquement, comme ta mère, je pense, a été une maman très aimante, mais le fait de t'avoir montré sa souffrance chez un des frères, elle a engendré une forme de proie ou à la non-réalité, donc il est parti faire autre chose, un peu faire les 400 coups, etc. Parce que c'est sa façon de s'exprimer. Et toi, t'as endossé, t'étais son écoute, t'étais son oreille, t'étais là, tu faisais pas de bruit, tu avais des bonnes notes, etc. Donc c'est nos constructions, elles nous appartiennent. Maintenant, on en fait quoi avec ? Ok, donc du coup, cette psy t'aide là-dessus, tu coupes avec ton père, tu rencontres Gabriel.
Ouais, et donc en fait, c'est au moment où je coupe avec mon père où je me dis, ça y est, j'ai envie et je suis prêt à rencontrer quelqu'un.
Il y a de la place.
Ouais, il y a de la place. Et je pense, je ferme pas la porte à mon père. Hein. Je lui ai toujours dit, je suis pas fâché.
Je vous le souhaite en tout cas.
Ouais, je suis pas fâché. Je veux juste que ça se passe bien et qu'en fait, il y ait juste une relation aimante père-fils.
Il a compris ton père.
Mais je lui ai dit, voilà, moi, je suis pas fâché. Là,
mais j'ai besoin de temps.
Voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace. Par contre, si toi, tu souhaites prendre de mes nouvelles, m'appeler, etc., il y a aucun problème.
Ok.
Mais moi, pour l'instant, voilà.
C'est assez récent en même temps.
Ça fait un an et demi.
Ouais. Et donc, lui, t'as eu de la place pour rencontrer Gabriel qui est rentré dans ta vie.
C'est ça, ouais. Parce que, en fait, je pense que c'était le dernier frein où je me disais, ça y est, ma mère est prête.
Ouais.
C'est OK. Une fois, elle m'avait posé la question. Quand j'étais encore en études, elle m'avait dit est-ce que t'aimes les garçons ? Parce que j'ai jamais entendu parler de filles à la maison, nanana. Et moi, sur le coup, j'avais dit, elle m'a dit écoute, j'en ai pas dormi de la nuit, je pense que je suis prête. Et alors là, tout de suite, je me suis dit non, tu n'es pas prête. Si tu n'en as pas dormi de la nuit, c'est que tu n'es pas prête. Donc m'étais dit c'est pas le moment.
Okay.
Surtout que moi, j'étais encore en process.
Bien voilà, sûr.
Je pouvais pas. Donc, mais bon, petit à petit, je commence l'internat, tout ça, je me dis c'est bon, elle va être prête.
Donc tu lui as annoncé.
Ben alors pas encore, et mon père en fait je me suis dit pour le coup lui je sais pas comment faire et je pense que tu vois il y a eu cet abcès quand même qui s'est formé et qui s'est...
Et le fait d'avoir mis de la distance, tu t'es dit au moins c'est plus un frein, c'est plus un sujet.
C'est ça. Pour l'instant, on met ça de côté. Okay. Et puis, en fait, je me dis un jour peut-être, quand je serai stabilisé professionnellement, quand je serai stabilisé, je réouvrirai peut-être une porte.
Et pardon pour ça, mais peut-être aussi quand tu auras vraiment pris ta statue d'homme à part entière, même si tu es un homme, etc. Mais tu vois, quand tu seras, comme tu dis, assis vraiment dans ton canapé, ce sera plus de fils à père, mais d'homme à homme.
Bah là, j'y tends un peu quand même, parce que en fait, le dernier frein, c'était l'indépendance financière finalement que j'avais avec lui, et là, je l'ai.
Oui.
Donc en fait, maintenant, en fait, voilà, tout ce que je recherche avec lui, c'est une relation aimante d'un père et d'un fils, mais pas un espèce de contrôle comme ça sur moi, sur ma vie, sur ce que je fais, de donner son avis sur ce qu'il a à dire.
Le fils adulte, en vrai.
C'est ça.
Ok.
Donc là, je pense que j'en ai pas besoin pour l'instant en tant que jeune adulte. On verra
un peu plus tard.
Un peu plus tard.
Donc tu rencontres Gabriel.
Je rencontre Gabriel.
Et là,
ça match.
Instantanément.
Au départ, ça a été une relation Instagram, quoi, parce qu'en fait, il y a eu un loupé, on s'est pas vu finalement au week-end qu'on avait prévu.
Mais bon, vous avez commencé sur les réseaux sociaux.
Voilà, on se parle et puis finalement, on se rencontre un mois après avoir discuté. Et puis, ça a été vraiment fluide, quoi.
Ok. Lui, pareil, bien dans son homosexualité à ce moment-là ?
Très bien dans son homosexualité, ouais. Il avait déjà eu des histoires longues, auparavant. Il était out depuis le début de ses années médecine, donc.
Donc pour lui facile.
Et ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que l'autre chose qui m'a permis aussi de libérer les poids, c'est que au début de l'internat, j'ai coupé les ponts avec le garçon de qui j'étais tombé amoureux.
Tu t'es libéré de ça aussi.
Ouais, je lui ai dit, écoute, je remercie la vie de m'avoir mis sur ton chemin et je
referai rien de différent.
T'as été une de mes plus belles rencontres. Pour la suite, je préfère qu'on coupe les liens.
Puis t'as peut-être cristallisé aussi quelque chose à ce moment-là, tu vois, dans sa personne.
Ouais.
Ok, donc avec Gabriel, vous commencez votre relation.
Oui. Ouais.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui ?
Ça va faire un an et demi bientôt.
Et vous êtes amoureux ?
Ah oui.
Tu me dis avec un sourire.
Ah oui, oui. Il n'y a pas de doute.
Comment ça s'est passé de l'intimité ? Parce que tu avais eu des relations avec des garçons.
Ouais.
Là, tu rentres dans une vraie intimité, une sexualité de couple.
Ouais.
Est-ce que c'est facile pour toi ? Est-ce que tu parles de fluidité dans les sentiments ? Est-ce que là, à ce moment-là, tu arrives à être aligné ?
Ouais. Franchement, tout s'aligne. Alors, je sais, enfin, tout s'aligne. Moi, je me sens. Quand on a commencé à officialiser notre relation, je me suis posé et je me suis dit, mais en fait, je suis enfin heureux.
Ah,
même si professionnellement, c'était dur. C'est là où j'ai toujours basculé entre le professionnel, l'intime, le professionnel, l'intime. Parce que du coup, j'ai pris la spécialité de l'infectiologie à l'internat. Et du coup, en étant infectiologue, tu gères toutes les infections sexuellement transmissibles.
Aussi, ouais, bien sûr.
Tu gères les patients qui sont atteints du personnes vivant avec le VIH. Et bah, je retourne à mon tout premier souvenir avec la sexualité où en fait, je me dis, mais finalement, il n'y a pas de hasard, quoi. Je me retrouve en fait à intellectualiser la sexualité. Et c'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai envie de venir en aide aux gens qui se sentent pas à l'aise d'en parler dans leur cercle proche. Et j'ai envie d'être ce médecin que j'attendais, en fait, d'avoir quand j'étais ado.
C'est un très beau message, en tout cas, de boucle bouclée, de réussite et surtout de montrer que quand on a... Alors, ça, c'est ma conviction, mais quand on a une nature profonde, elle va forcément, à un moment donné, tu vas prendre la place. Donc, ça a été douloureux pour certains aspects, mais c'est une réussite.
C'est vrai que là, du coup, avec Gabriel, ça fait un an et demi, donc on vit la relation à distance, pour le coup.
Moment, ouais. Il est aussi médecin.
Également. On le vit plutôt bien. Alors, moi, parfois, c'est un peu compliqué de mon côté parce que, tu vois, j'ai toujours ce petit crainte de l'abandon, etc. Donc, il y a parfois des moments où je te dis, ça pop dans mon esprit, je suis anxieux et j'essaye de travailler là-dessus et je ferme pas la porte à une thérapie future. Sachant que je suis très triste d'avoir quitté la ville où exerçait ma psychologue parce que je ne veux être en thérapie qu'avec elle, en fait.
Et donc, vos projets futurs aujourd'hui, c'est quoi ?
Et bah, écoute, nos projets futurs, pour l'instant, c'est un peu dur parce que tant qu'on n'a pas, vu qu'on n'est pas dans la même ville et qu'on n'a pas encore passé les thèses respectives.
C'est en fonction de ça que vous pourrez décider de où vous parachutez vos.
Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Moi, je suis fermé à rien. Okay. En fait, j'ai juste envie d'être avec lui.
Oui, donc vous pouvez faire des concessions de l'un et l'autre sur vous rapprocher au maximum.
Je pense.
Idéalement, être dans la même ville.
Ah bah oui, ah, ça c'est sûr. Ouais.
C'est le goal.
Ouais, ça c'est le goal.
Et dans votre vie intime, écoutez les épisodes de Down the Verge, t'as vu qu'il y avait des façons de vivre sa sexualité et donc son homosexualité de façon très diverse et variée. Mmh. Est-ce que vous êtes dans les sexualités plutôt de coupe vanille? Est-ce qu'il y a des terrains d'exploration que vous allez mettre en place? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore neuf? Donc,
On va dire que c'est encore neuf parce que moi je me suis découvert aussi beaucoup avec lui. Il m'apprend plein de choses. C'est...
Oui, mais t'as une sexualité finalement récente.
Oui, ouais, ouais, non, c'est super. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, que ce qui comptait pour moi, en fait, c'était d'avoir la relation sexuelle avec les sentiments, en fait.
Avec de l'amour. Enfin, l'amour, quoi.
Bah ouais, moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est de me dire, en fait, j'aime profondément la personne avec qui je suis en train d'avoir un rapport, quoi. Et en fait, avec lui, c'est ça. On a une sexualité vanille, hein. Vanille exclusive, vanille exclusive, voilà, et ça se passe très bien.
Et t'as quel regard justement sur tous les autres témoignages que t'as pu entendre d'homosexuels qui ont des sexualités parfois hyper consommatrices, plutôt trash,
Alors...
ton regard d'homme, ton regard de médecin, ton regard de... comment ça se passe?
Bah, moi je suis ouvert à tout.
Ouais.
Je juge personne. Okay. Maintenant, moi, c'est pas ce que je recherche.
Okay.
Je cherche pas, notamment, je pense que c'est ta question, la relation libre.
Entre autres, mais il y a pas.
J'ai un regard très négatif, moi, sur le chemsex. Je pense que ça détruit des gens.
Ah oui, bien sûr, c'est un vrai fléau.
Ouais.
Dans la communauté gay, c'est dramatique.
Ah oui.
Hein.
Ouais. Et je sais pas si t'as vu là récemment le mec qui s'est suicidé et qui a laissé une lettre. Il y a le compte Instagram Paint là.
Ah oui, oui, je le connais, je le suis.
Ouais, ouais, et bah, tu regarderas, ils ont mis une lettre d'un gars qui s'est suicidé il y a quelques jours. Mais en fait, sa lettre, elle m'a déchiré parce que en fait, il a mis des mots sur des malaises que j'ai pu ressentir dans des soirées comme ça. Ou dans des boîtes de nuit ou des choses comme ça, où en fait tout ce qui compte c'est la consommation du sexe, la consommation de la drogue, où toi en fait c'est horrible, mais moi où tu te sens comme un morceau de viande en fait. Ouh. Et moi ça me fait peur.
Ouais,
je me sens pas en sécurité.
Ah ouais,
donc j'ai un regard très négatif, et puis sur le plan médical c'est dévastateur. Oui, le chemsex, on va pas se mentir, les drogues c'est une catastrophe. Enfin...
Est-ce que tu voudrais dire au Erwan de 8 ans.
J'aimerais lui dire j'aimerais lui apprendre à écouter son corps et à écouter ses émotions, parce que je pense que c'est la plus fidèle source d'inspiration, on va dire. Et que quand il y a quelque chose qui ressent comme un malaise, c'est que c'est un malaise. Et que tout se passera bien. Mais en même temps, j'ai envie de lui dire de rien changer, parce que je pense que ça a été tout ça a été un moteur pour réussir médecine, en fait. Mm-hmm. Tu vois, je sais pas si j'en serais là aujourd'hui.
Bien sûr.
Sans mon parcours.
Donc continue à t'accrocher, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, j'ai envie de lui dire que ça va bien se passer, qu'un jour il trouvera la paix.
L'amour et la paix, c'est pas mal. Et pour nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce que tu leur... le mot de la fin, le fameux mot de la fin.
Moi, j'ai envie de leur dire de... Alors déjà, de faire... On va reprendre le statut de médecin.
Il remet sa blouse.
Voilà, je remets la blouse. On va leur dire d'être très safe, à nouveau, de s'écouter, en fait. C'est-à-dire de dire non quand il y a une somatisation d'anxiété, etc. De savoir dire non, de pas aller dans des endroits où en fait ils ont pas vraiment envie d'aller, d'essayer de pas aller dans la drogue.
S'il vous plaît.
Je sais pas quoi dire de plus à part d'être intuitif sur ce que dit notre corps et nos émotions, en fait.
On en a parlé avant d'ouvrir les micros, mais je voudrais bien que tu fasses un rappel sur la PrEP.
Ah, oui. Donc la PrEP, donc, c'est le traitement pré-exposition au VIH. C'est une association de molécules antirétrovirales en fait à visée prophylactique, enfin pour prévenir une infection au VIH. Donc c'est un traitement qu'on prend un peu comme une pilule avant les rapports. Mm-hmm. Il y a plusieurs schémas, hein. Il y a un schéma continu, discontinu en fonction de la fréquence des rapports qu'on va avoir.
Donc il y a des gens qui peuvent être en PrEP toute l'année par exemple, enfin,
exactement,
pendant...
en continu, okay. Un comprimé par jour, okay. En continu
comme, oui, comme une pilule contraceptive quoi.
Ouais, exactement.
Et donc ça évite, pour vulgariser, ça évite donc du coup de contracter le virus
le VIH seulement.
Parce c'est ça qui est important, ouais.
Parce qu'en fait, nous, les études, là, elles montrent que les infections à chlamydia, gonocoque, syphilitique...
Toutes les MST et l'IST...
Voilà, elles sont en augmentation, vraiment pleine balle, là.
C'est ça.
Et en fait, le problème, c'est que il y a... Tu vois un peu le cercle des contraceptions. Mm-hmm. Et la PrEP, c'est une contraception parmi d'autres, mais ça ne remplace pas le préservatif. Mmh. Et on sait, hein, on le sait très bien, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher la PrEP pour retirer le préservatif.
C'est ça.
Donc dans le contrat thérapeutique, c'est OK pour la PrEP. Par contre, vous vous engagez tous les 3 mois à assurer un dépistage.
D'accord. Donc du coup, qui doit prendre la PrEP dans des bonnes conditions ? C'est-à-dire, c'est un couple, quoi. Par exemple, un couple où il y a une personne qui est séropositive. Évidemment, traité, ouais. Etc.
Alors nous, on parle de population à risque.
D'accord, c'est les populations, ouais. À risque qui doivent prendre la PrEP.
On parle de population à risque, donc on évalue un peu le risque. Donc ça va être
le nombre de
travailleurs, travailleuses du sexe.
D'accord, bien sûr.
Les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont des partenaires non réguliers.
D'accord.
Et qui eux-mêmes ont des relations avec d'autres hommes, enfin, oui. Tu vois. Après, moi, j'ai un peu du mal parce que les définitions, elles incluent les personnes transsexuelles. Et j'avais eu une petite altercation sur Instagram avec une interne qui avait publié un truc sur ça et où je lui avais dit qu'en fait, je trouvais qu'il fallait faire attention.
Mais c'est
en
de
fait,
la stigmatisation parce que
ouais,
quel
complètement.
Est le
ça n'a aucun
rapport
lien.
De la, quelqu'un qui a une dysphorie de genre.
Ça n'a aucun lien.
Ouais, ouais.
Et pareil, dans les définitions, donc nous, en médecine, on dit les HSH, les hommes ayant des relations sexuelles, oui. Avec des hommes. Et c'est pareil, en fait, tu peux pas mettre les gens dans des cases,
ben
et dire en fait, ah, lui il est HSH, il est à risque de faire un sida et toutes les... Enfin, je te dis ça vraiment par connaissance de cause, parce qu'en fait, dans les partiels, quand tu passes l'infectiologie ou la, ouais. Gynécologie, tu vas avoir, ou l'urologie, tu vas avoir un cas clinique, et c'est tout le temps très stéréotypé, c'est... Un jeune de 23 ans, il est HSH, et en fait, pendant toutes les 15 questions du cas clinique,
oui,
il te tape toutes les IST.
Alors qu'il peut être très bien en couple depuis 6 ans et très
exactement.
Heureux.
Exactement.
Incroyable.
Donc je pense qu'il faut faire attention. Donc c'est pour, ouais. Ça que je préfère parler de population à risque.
Et chacun s'y retrouve en fonction de,
voilà.
D'un truc, ouais. Précis et pas dire
voilà.
Oui, bien sûr.
Et c'est moi en consultation qui dit
qui
lui
fait
ou elle.
De médecin et qui va.
Il appartient à une population à risque et donc il est éligible à la PrEP. Mais j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a, enfin, la prévalence du VIH chez les femmes hétérosexuelles,
bien sûr.
Elle est importante. Et on sait aussi qu'il y a des hommes, tu sais, on les appelle les hétérocurieux. Bon,
oui,
voilà.
Les femmes, on les. Coucou, on vous voit.
Voilà, et qui en fait, le risque en fait de ces gens, c'est de pas s'être informé suffisamment, de faire les choses un peu en cachette, etc.
Et
de pas prendre.
Et voilà, et du coup, qui ramène ça à la maison, et du coup,
ramène
c'est
ça à la maison, ça infecte les femmes, etc. Donc.
Ouais. Non, voilà. Mais c'est intéressant, c'est bien de remettre les bons mots.
Je pense que si j'ai un message à faire passer sur le plan médical, c'est hyper important quand le médecin pose des questions. D'y répondre, d'être honnête. En fait, on va pas vous juger. Enfin, en tout cas, nous, infectiologues, on juge pas. Parce que ça fait partie de notre métier. On fait de la santé sexuelle et si à un moment donné on est infectiologue sans accepter
la pluralité des
sexualités,
ouais.
Des sexualités, ben ça marche pas. Donc en fait, quand on consulte quelqu'un, ben quand il pose une question, il faut
y
répondre. Parce que les médecins mal à l'aise en général ne posent pas la question.
Super. Bah, merci infiniment, Erwan.
De rien.
Merci pour votre écoute, merci évidemment infiniment à Erwan d'être venu à moi et d'avoir enregistré cet épisode. C'est toujours un moment très chouette, ces échanges. J'avais beaucoup de rush, j'espère que le montage ne le supporte pas trop mal, parce que Erwan est bavard et je suis bavarde et on a beaucoup échangé. J'ai beaucoup aimé aussi, voilà, échanger avec lui sur la médecine, les études qui sont tellement lourdes et intenses et qui mettent aussi en lumière un problème de société société dans laquelle on est aujourd'hui confronté, mais aussi voilà, les croyances limitantes que l'on peut se faire, la puissance de la thérapie. Alors loin de moi l'idée hein, d'inciter tout le monde à aller voir un thérapeute, même si personnellement je pense que c'est un très beau cadeau que l'on se fait. Il n'y a pas de prosélytisme derrière, mais c'est, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, et la démonstration des thérapeutes qu'a vu Erwan en sont une magnifique démonstration. Mais voilà, ça a été vraiment un super échange, une très belle rencontre. Les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à venir en discuter sur le Discord du podcast. Vous avez le lien dans la note qui accompagne cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Pensez à mettre des petits avis et des étoiles. Je le dis pas assez souvent, mais c'est vrai que ça aide vraiment le podcast à continuer, à gagner en visibilité, même si c'est un vieux podcast maintenant. On est quand même à la 6e saison. Donc ouais, ça commence à faire. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'On the Verge.